Chapitre 3. Partage.
Ma foi, je n'en sais trop rien.
Barachon se tenait sur le gaillard d'avant à côté d'elle. La brume du soir faisait boucler ses cheveux et emperlait sa veste de gouttelettes argentées.
Tout paraît différent maintenant. Ce n'est pas seulement la mouscaille, mais le niveau des eaux, le feuillage, les contours du rivage. Tout était différent dans mon souvenir.
Il avait les mains posées sur la lisse, toute proche de celle d'Althea. Elle s'enorgueillit de pouvoir résister à la tentation de le toucher.
On pourrait simplement mouiller ici.
Elle parlait doucement, mais sa voix portait bizarrement dans la brume. Attendre qu'un navire entre ou sorte?
Brachen secoua lentement la tête. Je ne veux pas être provoqué ni abordé. Cela nous arrivera peut-être de toute façon à partage, mais je ne tiens pas à avoir l'air d'avancer à l'aveuglette. On va pénétrer dans le chenal et le remonter en jouant les arrogants et les malins, et mouiller à partage, comme si on était sûr de l'accueil. Si je leur fais l'effet d'un bravache et d'un imbécile, ils baisseront plus vite leur garde.
Il lui glissa un sourire en coin dans l'obscurité croissante.
Je ne devrais pas me forcer beaucoup pour leur donner cette impression.
Ils étaient mouillés au large d'une côte marécageuse et boisée. Les pluies hivernales avaient grossi les cours d'eau qui débordaient. À marée haute, les eaux douces et salées se mêlaient dans les marais saumâtres. Dans l'obscurité grandissante, les arbres, vivants et morts, surgissaient des brumes flottantes. Des déchirures révélaient par intermittence des murailles denses de troncs entremêlés de lianes pendantes, drapées de mousse. La forêt tropicale s'avançait jusqu'au rivage. En scrutant attentivement, Brachen et Althea avaient repéré plusieurs percées, chacune pouvant être l'embouchure étroite du fleuve qui serpentait jusqu'au lagon stagnant donnant sur partage. Une nouvelle fois, Brachen examina, en plissant les yeux, le lambeau de toile qu'il tenait à la main. C'était le croquis sommaire qu'il avait fait quand il était second sur la veille du printemps.
Ça devrait indiquer un banc de varech découvert à marée basse, je crois.
Et il jeta un coup d'œil alentour.
Je ne sais vraiment pas, confessa-t-il à mi-voix.
Choisis-en un, proposa Althea. Le pire pour nous, c'est de perdre du temps.
Le mieux pour nous, c'est de perdre du temps, corrigea-t-il.
Le pire est considérablement pire.
On peut se retrouver coincé dans un bras de mer à fond vaseux et y rester échoué.
Il respira profondément.
Mais je décide, et on prend le risque.
Le navire était très silencieux. Sur ordre du capitaine, l'équipage se déplaçait sans bruit et ne parlait qu'en chuchotant. Aucune lumière. Parangon lui-même tâchait d'étouffer les petits craquements de ses membrures. La toile avait été carguée et ferlée. Les sons portaient trop bien dans cette brume. Brachen voulait être en mesure d'entendre si un autre navire approchait. Ambre apparut silencieusement à côté d'eux comme un fantôme.
« Si nous avons de la chance, la brume se lèvera un peu dans la matinée ?» fit observer Althea avec espoir.
« Il est plus probable que la mouscaille s'épaississe, » répliqua Brachen. « Mais on va attendre le jour avant de tenter le coup. Là-bas. »
Il pointa le doigt et Althea dirigea le regard sur le point indiqué.
« Je crois que c'est l'entrée du chenal. On y va à l'aube. »«
Vous n'êtes pas sûr ?»
chuchota Ambre consternée.
« Si partage était facile à trouver, la place forte des pirates n'en aurait pas réchappé pendant toutes ces années, »
fit remarquer Brachen.
« Cet endroit a ce site particulier, justement, qu'on ne penserait jamais à le chercher si on ignore son existence. »
Peut-être,
commença Ambre en hésitant.
Peut-être qu'un des esclaves affranchis pourrait nous aider. Ils viennent des îles des pirates.
Brachen secoua la tête.
J'ai demandé. Ils prétendent ne pas connaître du tout partage. Ils nient même avoir été pirates. Interrogez-les. Ils étaient fils d'esclaves marrons qui se sont installés dans les îles des pirates pour recommencer leur vie. Les Chalcédiens ou les Jaméliens les ont capturés, tatoués et vendus à Jamélia. De là, on les a amenés à Terrilleville.
Est-ce si difficile à croire ?
Questionna Ambre.
Nullement, répondit Brachen sur un ton dégagé. Mais un gamin se fait presque toujours une idée générale de la ville où il grandit. Ces gars-là protestent trop de leur ignorance pour que je n'aie pas de doute sur leur histoire.
Ce sont de bons marins, ajouta Althea. Je m'attendais à des ennuis quand ils ont intégré mon quart, mais il n'en a rien été. Et ils auraient préféré rester entre eux. Je ne les ai pas laissés faire et ils n'ont pas résisté. Ils y mettent de la bonne volonté, comme quand ils sont venus travailler secrètement à bord. Arg est mécontent, je crois, d'avoir perdu un peu de son autorité sur les autres. Dans mon quart, ils ne sont que des matelots sur un pied d'égalité avec les autres. Mais ce sont de bons marins, un peu trop bons pour que ce soit leur premier voyage.
Ambre soupira. J'avoue que, quand je leur ai proposé de les amener à bord et que je leur ai donné la possibilité d'échanger leur labeur contre une chance de retourner chez eux, je n'ai pas pensé qu'ils pourraient être tiraillés entre deux camps. Aujourd'hui, cela paraît évident.
Tu as été ébloui par l'occasion qui se présentait de rendre service.
Althea lui sourit et lui donna une bourrade amicale. Ambre lui rendit un sourire entendu. Althea se sentit gênée.
Aurais-je l'audace de demander si la Voy ne pourrait pas nous aider?
Poursuivit doucement Ambre.
Althea secoua la tête devant le silence de Brashen. Les cartes de Brashen, nous n'avons que ça. Avec le changement de saison et l'instabilité des îles, ça devient délicat.
Je doute parfois que ce soit bien ces marées-là, ajouta-t-il avec aigreur. Il pourrait très bien s'agir d'un autre fleuve.
Ce sont bien ces marées-là.
La voix grave de Parangon, très basse, se réduisait presque à une vibration.
C'est même la bonne embouchure. J'aurais pu te le dire il y a des heures si on s'était avisé de me le demander.
Les trois humains se figèrent dans une immobilité absolue, comme si bouger ou parler risquait de rompre quelque sortilège. Le soupçon qu'Althea nourrissait depuis toujours mijotait dans sa tête.
Tu as raison, Althea.
Le navire répondait à sa pensée non formulée.
Je suis déjà venu ici. Je connais suffisamment Partage pour pouvoir y arriver par la nuit la plus noire, quelle que soit la marée.
Son rire profond fit vibrer tout le gaillard d'avant.
J'avais perdu la vue avant d'avoir remonté le fleuve la première fois. Alors que j'y vois ou non ne change pas grand-chose.
Ambre se risqua à dire tout haut.
Comment peux-tu savoir où nous sommes? Tu as souvent répété que tu avais peur de naviguer en pleine mer à cause de ta cécité. Pourquoi n'as-tu plus peur maintenant?
Il émit un gloussement indulgent.
Il y a une grande différence entre la pleine mer et l'embouchure d'un fleuve. La vue, ce n'est pas le seul sens. Tu ne sens pas la puanteur de Partage? Les feux de bois, les latrines, le charnier où ils brûlent leur mort? Quand ce n'est pas l'air, c'est le fleuve qui m'apporte le goût aigre de Partage. Par toutes les fibres de mon bordage, je goûte l'eau du lagon, épaisse et verte. Je ne l'ai jamais oubliée. Elle est aussi limoneuse aujourd'hui qu'au temps du règne d'Ygrotte.
Tu pourrais nous y conduire, même dans la nuit la plus noire? Demanda Brashen sur un ton circonspect.
Je l'ai dit, oui.
Althea attendait. Croire Parangon ou le craindre? Se livrer à sa merci ou patienter jusqu'à l'aube et remonter à l'aveuglette le fleuve embrumé? Elle sentait qu'il les mettait à l'épreuve. Elle se félicita soudain de n'être pas le capitaine. Elle n'aurait pas aimé avoir à adopter cette décision. Et il faisait si noir à présent qu'elle distinguait à peine son profil. Elle le vit qui haussait les épaules en prenant une respiration.
Tu voudrais nous y conduire, Parangon?
Je veux bien.
Ils travaillèrent dans le noir, sans falot. Ils déferlèrent, hissèrent la toile, dérapèrent l'ancre. Il était ravi de les sentir qui couraient dans tous les sens, dans l'obscurité, aussi aveugle que lui. Ils virèrent au cabestan sans dire un mot. On n'entendait que le grincement des barres d'en spais et le cliquettement des chaînes. Il ouvrit ses sens à la nuit.
« À tribord, juste un poil !» dit-il doucement, alors qu'il hissait la toile et que le vent lui donnait la tosse, et il entendit qu'on relayait l'ordre en chuchotant tout le long du pont.
Brachen était à la barre. C'était bon de sentir ses mains fermes dessus. Encore mieux d'être celui qui décidait de la direction à prendre, de deviner les marins sauter à ses ordres. Qu'il voit un peu quel effet ça fait d'être obligé de se mettre à la merci de quelqu'un qu'on redoute. Car ils le redoutaient tous, même la voile. Celui-là, il faisait de beaux discours sur l'amitié qui transcende le temps ou l'espèce, mais dans ses entrailles, le second craignait le navire bien plus que n'importe qui à bord. « Et ils font bien, » pensait Parangon avec satisfaction. « S'ils connaissaient ma vraie nature, ils se pisseraient dessus de terreur, ils se jetteraient dans l'abîme en piaillant et s'estimeraient bien lotis. » Parangon leva les bras très haut et écarta les doigts. Piètre comparaison, ce vent humide qui glissait sur ses mains alors que ses voiles le poussaient vers l'embouchure, mais elle suffisait à conforter son âme. Il n'avait pas Dieu, il n'avait pas d'elle, mais son âme était toujours l'âme d'un dragon.
« C'est beau !» lui dit Ambre.
Il sursauta. Bien qu'elle fût depuis longtemps à bord, elle demeurait encore parfois transparente pour lui. Elle était la seule dont il ne pouvait sentir la peur. Il arrivait qu'il partage ses émotions, mais il n'avait jamais accès à ses pensées, et quand il saisissait un soupçon de ses sentiments, il devinait que c'était parce qu'elle y consentait. En conséquence, ses paroles le déroutaient plus que le discours des autres. Elle était la seule à pouvoir lui mentir.
Lui mentait-elle maintenant?
« Qu'est-ce qui est beau ? »
demanda-t-il à mi-voix. Elle ne répondit pas. Il se concentra sur sa tâche. Brachen voulait qu'il remonte le fleuve aussi silencieusement que possible. Il souhaitait que Partage se réveille demain en le découvrant ancré dans le port. Et l'idée séduisait le navire.
Qu'ils en restent bouche bée, qu'ils crient en le voyant revenu d'entre les morts, si quelqu'un se souvenait encore de lui là-bas.
« La nuit est belle, » dit enfin Ambre, « et nous sommes beaux dans la nuit. Il y a une lune quelque part au-dessus de nous qui fait luire la brume comme de l'argent. Ici et là je distingue des parties de toi. Un chapelet de gouttelettes d'argent sur une haussière tendue, une déchirure dans la brume et des rayons de lune éclairent notre route sur le fleuve. Tu glisses si doucement, sans à-coup, l'eau contre ta proue qui ronronne comme un chat et le vent qui nous fait taire. Le fleuve est si étroit ici. On dirait qu'on coupe à travers la forêt, qu'on fend les arbres pour passer. Le même vent qui nous pousse fait bruire les feuilles. Cela fait si longtemps que je n'ai pas entendu le vent dans les arbres, senti les odeurs de la terre. C'est comme si j'étais dans un rêve argenté sur un vaisseau magique. »
Parangon se surprit à sourire.
« Je suis un vaisseau magique. »
« Je sais. » « Oh, je le sais bien, va, que tu es une merveille. Par une nuit comme celle-là, alors que tu files silencieux dans le noir, j'ai l'impression que tu pourrais déployer tes ailes et nous emporter haut dans le ciel. Tu ne ressens pas ça, Parangon ?»«
Bien sûr que si. »
L'inquiétant, c'était qu'elle le ressentait aussi, et qu'elle l'exprime. Il éluda la question.
Ce que je sens, c'est que le chenal est plus profond à tribord. Dirige-moi doucement dessus, juste un peu, je te dirai quand. »
Lavoy arriva sur le pont. Parangon le perçut qui arpentait l'arrière où Brachen tenait la barre. Sa démarche était furieuse, agressive. Serait-ce pour ce soir? Parangon éprouva une crispation fébrile. Ce soir, peut-être, les deux mâles allaient se défier. Ils se tourneraient autour et frapperaient, et ils échangeraient des coups jusqu'à ce que l'un des deux demeure étendu pour le compte dans son sang. Il tendit l'oreille, curieux de ce qu'allait dire Lavoy. Mais ce fut Brachen qui parla le premier. Sa voix grave et douce porta le froid jusqu'au cœur du bois de Parangon.
« Qu'est-ce qui vous amène sur le pont, Lavoy ?»
Parangon sentit l'hésitation du second. Peur, incertitude ou simple stratégie? Il n'aurait su le dire.
« Je croyais qu'on restait au mouillage toute la nuit. Le mouvement m'a réveillé. »«
Et maintenant que vous avez vu où nous en sommes ?»«
C'est de la folie. On peut toucher le fond à tout moment, et alors on sera une proie facile pour celui qui tombera sur nous. » « On devrait mouiller maintenant, si on le peut sans risque, et attendre demain matin. »
Une pointe d'amusement perça dans le ton de Brachen.
« Vous n'avez pas confiance dans notre navire pour nous guider, Lavoy ?»
Le second baissa la voix jusqu'au murmure et siffla une réponse. Parangon sentit un picotement de colère. Lavoy ne chuchotait pas pour faire plaisir à Brachen. Il chuchotait parce qu'il ne voulait pas que Parangon sache ce qu'il pensait vraiment. Au contraire, le capitaine s'exprimait distinctement. Savait-il que Parangon entendait chaque mot?
« Je ne suis pas d'accord, Lavoy. Oui, je lui fais confiance. Et ce, depuis le début du voyage. Et il y a des amitiés qui vont au-delà de la folie ou de la raison. Maintenant que vous avez exprimé votre opinion sur le bon sens de votre capitaine et la fiabilité de votre navire, je vous suggère de vous retirer dans votre cabine jusqu'à l'heure de votre quart. Je vous réserve des tâches particulières demain. Qui peuvent se révéler fatigantes. Bonne nuit. »
Lavoy s'attarda quelques instants. Parangon imaginait bien leur attitude. Babine retroussée, ailes légèrement soulevées, leur long cou puissant ployé prêt à l'attaque. Mais cette fois, le provocateur détourna les yeux, courba la tête, baissa les ailes. Et il s'éloigna lentement, manifestant sa soumission de mauvaise grâce. Le mâle dominant le suivit du regard. Les yeux de Brachen étincelaient-ils, roulaient-ils de triomphe? Ou savait-il que ce duel n'était pas réglé, qu'il était simplement différé?
Ils mouillèrent bien avant l'aube. Depuis qu'ils avaient quitté l'embouchure, on n'avait guère entendu d'autre bruit que le cliquettement de la chaîne d'ancre.
Ils avaient accosté en douceur dans le port, pas trop près des trois autres navires qui étaient amarrés au quai. Tout était silencieux à bord des vaisseaux.
Malheur à ceux qui étaient de quart. Gare à la punition demain. Brachen avait envoyé l'équipage en bas, sauf le quart de rade, soigneusement sélectionné. Puis il avait ordonné à son lieutenant de venir le rejoindre sur la dunette. Brachen se tenait près du garde-corps et contemplait les lumières de partage. Elles miroitaient comme des yeux jaunes à travers la brume, clignotaient puis scintillaient quand les vapeurs flottaient et se déplaçaient. Une lumière en particulier l'intriguait, qui brillait plus vivement et beaucoup plus haut que les autres. Quelqu'un avait-il laissé une lanterne au faîte d'un arbre? Cette réponse était absurde et il l'écarta. À l'aube, le mystère s'éclaircirait sans doute. Les lumières éparses ne correspondaient pas tout à fait aux souvenirs qu'il gardait de la ville, mais le brouillard y était sûrement pour quelque chose. Partage, de nouveau. L'infecte petite ville ne dormait jamais. La brume portait à ses oreilles des bruits déformés. Des cris joyeux, une bribe de chansons d'ivrogne, un aboiement de chien. Brachen bâilla. Il hésita à prendre quelques heures de sommeil avant que l'aube ne révèle le parangon et son équipage aux yeux de partage.
Des pieds nus s'approchèrent doucement derrière lui.
« Elle n'est pas là !»
chuchota Althea, déçue.
« En tout cas, je ne l'ai pas vue dans le port.
Non. Je ne crois pas que Vivacia soit ici cette nuit.
Ça aurait été trop beau.
Mais elle y était la dernière fois que je l'ai vue et elle va probablement revenir. Patience.
Il se tourna vers elle.
Dans la brume qui les dissimulait, il se risqua à lui prendre la main et à l'attirer vers lui.
Qu'est-ce que tu imaginais?
Qu'on la trouverait ici ce soir? Et qu'on arriverait d'une façon ou d'une autre à la faire sortir discrètement sans se battre?
Un rêve d'enfant,
convint Althea. Elle posa brièvement le front sur son épaule.
Il eut une envie irrésistible de la prendre dans ses bras et de l'enlacer.
Alors traite-moi d'enfant, car j'ai fait le même rêve. J'ai espéré que pour une fois ça pourrait être simple et facile pour nous. Elle se redressa avec un soupir et s'écarta de lui. La nuit humide se fit plus froide encore. La mélancolie l'étreignit.
Althea, tu crois qu'il y aura un jour quelque part où ça sera simple et facile pour nous?
Un jour où je pourrai me promener dans la rue avec toi à mon bras, aux yeux de tous?
Elle répondit posément.
Je m'interdis de me projeter si loin dans l'avenir.
Moi non, dit Brashen sans détour. J'ai imaginé que tu prendrais le commandement de Vivacia et que moi je continuerais avec Parangon. C'est l'issue la plus favorable que nous puissions envisager. Mais alors je m'interrogeais. Où cela va-t-il nous mener? Quand et où nous bâtirons-nous un foyer?
On sera quelquefois au port en même temps?
Il secoua la tête. Cela ne me suffit pas, je te veux tout le temps, toujours à mes côtés.
Elle répondit à mi-voix.
Brashen, je ne peux pas me permettre de penser à tout ça maintenant. Malheureusement, tous mes projets d'avenir ne commencent qu'avec mon navire.
Malheureusement, j'ai bien peur qu'il en soit toujours ainsi. Tes projets commenceront toujours avec ton navire.
Brusquement, il se rendit compte qu'il s'exprimait comme un amant jaloux. Althea parut avoir la même impression.
Brashen, sommes-nous vraiment obligés d'en parler maintenant? Ne pouvons-nous pour le moment nous contenter de ce que nous avons sans songer au lendemain?
Ce serait plutôt à moi de dire ça, je crois, finit-il par répondre d'un ton bourru. Pourtant, je sais que pour le moment, je dois me contenter de ce que j'ai. Des minutes volées, des baisers en cachette.
Il sourit tristement.
Quand j'avais 17 ans, j'imaginais que c'était le comble du romanesque. Une passion secrète à bord d'un navire. Des baisers furtifs sur la dunette par une nuit de brume.
Il fit un pas, la prit dans ses bras et l'embrassa passionnément. Il ne l'avait pas surprise. Avait-elle attendu ce geste? Elle répondit sans réserve à son élan. Son corps s'ajusta harmonieusement à celui de Brashen. Cette spontanéité l'émut si profondément qu'il gémit de désir. À contre-cœur, il se sépara d'elle.
Il reprit son souffle. Mais je ne suis plus un gamin. Aujourd'hui, tout ça me rend fou.
Je veux davantage, Althea. Je ne veux pas d'incertitude, de querelle, ni de jalousie. Je ne veux pas me cacher, ni dissimuler mes sentiments. Je veux avoir la satisfaction de savoir que tu es à moi. Je veux être fier que tout le monde le sache aussi. Je te veux dans mon lit, à côté de moi, toutes les nuits, et en face de moi à table le matin. Je veux être sûr que dans des années, où que je sois, tu seras à mes côtés.
Elle se retourna et leva vers lui un regard incrédule. Elle distinguait à peine ses traits. La taquinait-il? Sa voix semblait sérieuse.
Brashen Trell, êtes-vous en train de me demander en mariage?
Non,
répondit-il précipitamment.
Il y eut un long silence embarrassé. Puis il rit doucement.
Oui, je crois, oui. Le mariage ou quelque chose qui y ressemble fort.
Althea respira profondément et s'adossa à la lisse.
Tu me surprendras toujours,
dit-elle d'une voix tremblante.
Je n'ai pas de réponse.
Sa voix lui aussi trembla, bien qu'il tâchât d'être léger.
Ça ne fait rien, j'imagine, puisque Je n'ai pas encore vraiment posé la question. Mais quand tout ceci sera fini, je la poserai.
Quand tout ceci sera fini, alors j'aurai ta réponse.
Elle avait promis sans avoir la moindre idée de ce qu'elle serait cette réponse. Affolée, elle repoussa ce souci tout au fond de sa tête. Il y avait d'autres affaires plus urgentes à régler, même si ces affaires-là ne lui faisaient pas autant battre le cœur. Elle s'appliqua à ralentir le rythme de sa respiration, à réprimer le désir de sa chair.
« Que va-t-il se passer ensuite ? »
demanda-t-elle en faisant un geste vers les lumières voilées. Il répondit par une autre question. « Parmi ceux qui sont à bord, en qui as-tu le plus confiance ? Donne-moi deux noms. » Elle n'eut pas de peine à répondre.
« Ambre et Cliff. »
Il eut un rire bref et triste.
« Pareil pour moi.
Et ceux dont tu te méfies le plus ? » Là encore, elle n'eut pas besoin de réfléchir.
« Lavoy et Arthur. »
Alors ils ne figureront pas sur la liste de ceux qui débarqueront. Nous n'emporterons pas nos problèmes avec nous et nous ne les laisserons pas sans surveillance sur le navire.
Nous. Elle aimait bien entendre ce « nous ».
Alors qui emmenons-nous ? Il n'hésita pas. Jake, Chypre et Kurt. Je voudrais prendre aussi un ou deux affranchis pour donner l'impression que notre équipage est mélangé. Il faudra que tu les choisisses.
Il s'interrompit, pensif.
Je laisse Clapeau avec Ambre. Et je ferai savoir à Haff qu'il doit la seconder si elle le lui demande. À elle, je lui dirai qu'en cas de problème, à bord ou à l'extérieur, Clapeau doit débarquer Cliff pour nous prévenir.
Tu t'attends à des difficultés avec Lavoy ?
Il émit un bruit méprisant. Je ne m'attends pas. « Je prévois toutes les éventualités. »
Elle baissa la voix. « Cela ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ?»
Il répondit avec lenteur. « Laissons-le faire le premier pas. Ensuite, quand ce sera fini, je verrai où on en est. Qui sait ? Je pourrai en faire un matelot bon pour le service. » L'aube parut enfin. Décevante. Un soleil jaune déchirait la brume dont les lambeaux flottaient comme des fantômes. Les nuages s'amoncelèrent, couvrirent le soleil, et une méchante pluie froide se mit à tomber comme des hallebardes. Brachen donna l'ordre d'amener la yole. Pendant la manœuvre, il scruta Partage. Il reconnut à peine la ville. La lumière très haute de cette nuit se révéla être une tour de guet. Les quais avaient changé d'emplacement, bordés d'entrepôts neufs. À la périphérie de la ville se dressaient des carcasses de bâtiments calcinés, comme si un incendie avait été à l'origine de la ville reconstruite. Brachen doutait qu'il s'agît d'un accident. La tour de guet prouvait que les habitants étaient bien décidés à ne plus se laisser surprendre. Il eut un grand sourire vorace. Ils ne seraient sûrement pas contents de voir un vaisseau étranger dans leur port. Il songea à attendre à bord qu'on vienne les interroger, puis se ravisa. Il se montrerait hardi et impétueux, il compterait sur un accueil fraternel, ensuite il aviserait. Il respira à fond. Il se surprit à sourire. Il aurait dû être exténué. Il était resté debout une bonne partie de la nuit, s'était levé avant l'aube pour le seul plaisir de tirer la voile du lit. Il lui avait donné ses ordres. Le second devait veiller au bon ordre sur le navire et interdire à l'équipage de le quitter ou de parler à quiconque s'approcherait d'eux. Le calme devait régner. Cliff et l'autre embarcation du navire étaient à la disposition d'Ambre. Avant que Lavoy ait osé poser une question, Brachen avait ajouté qu'elle avait aussi ses ordres et que le second ne devait pas intervenir. Entre-temps, il voulait que toute la literie des hommes soit sortie sur le pont et aérée, les logements enfumés pour éliminer poux et autres vermines, et la coquerie proprement récurée. Du travail destiné à occuper le second et les matelots, et ils le savaient tous deux. Brachen lui fit baisser les yeux. Lavoy avait fini par saluer de mauvaise grâce, puis il avait tourné les talons. À Ambre et à Parangon, il avait fait des recommandations plus délicates. Le navire devait rester immobile et silencieux, comme s'il n'était qu'un banal vaisseau en bois. Ambre devait l'aider en cela par tous les moyens. Il comptait sur elle pour comprendre à demi-mot. Rien ne devait troubler le navire, personne ne devait le provoquer. Brashen haussa les épaules. Il se sentait entravé dans sa veste. Pour jouer son rôle de capitaine marchand, il avait revêtu ses plus beaux effets qu'il n'avait pas portés depuis son départ de Terrilville. Il avait noué sur son front un mouchoir taillé dans sa chemise jaune, laissé ouvert son col de chemise. Il ne voulait pas avoir l'air trop sérieux. Il se demanda ce qu'aurait pensé le capitaine Vestrit s'il avait pu voir l'usage que son second faisait de sa veste bleue cintrée et de sa belle chemise blanche. Il espérait que le vieux capitaine le comprendrait et souhaiterait que ses vêtements lui portent chance.
Yul paraît à amener, capitaine.
Cliff, plein d'espoir, lui fit un grand sourire.
Merci. Tu as tes ordres. Veille à t'y tenir.
Cliff roula des yeux, mais répondit
« Oui, capitaine !»
sans rechigner. Il sautilla sur les talons de Brashen qui se dirigeait vers la yole. Alors que l'embarcation sortait de l'ombre du parangon, le capitaine remarqua trois petits canots qui venaient à sa rencontre.
« Aux avirons » ordonna-t-il à voix basse. « Et appuyez sur la nage. Je veux qu'on ait bien débordé de parangon avant qu'ils puissent nous intercepter. »
Il lança un regard vers son navire. La figure de proue, muette et stoïque, avait les bras croisés sur la poitrine. Ambre était accoudée à la lisse derrière lui. Elle leva une main en signe d'adieu et Brashen fit un bref salut de la tête, puis il reporta le regard sur ses hommes.
« N'oubliez pas les ordres. Nous sommes des amis. N'hésitez pas à dépenser l'argent qu'on vous a donné. Pas de bagarre. Et on ne se saoule pas au point de ne plus tenir sa langue. » S'il nous autorise à nous balader librement en ville, dispersez-vous. Posez des questions. Je veux tous les renseignements possibles sur Kenith et la Vivacia, mais n'insistez pas trop. Faites-les parler, détendez-vous et écoutez. Curieux, mais pas fouineurs. On se retrouve sur le quai à la Brune.
Et ils étaient à mi-chemin des quais quand les trois canots les entourèrent. Sur un signe de Brashen, les nageurs firent lève rame.
« Déclarez l'objet de votre visite ici !»
ordonna un homme maigre à barbe grise dans un des canots. La pluie trempait son chapeau informe. Un ancien tatouage d'esclave était visible au-dessus de sa barbe. Brashen eut un rire sonore.
« L'objet de ma visite à partage ? Il n'y a qu'un objet de visite à partage. Je parie que c'est le même que vous, mon vieux. Je m'appelle Brashen Trell, et avant que je déclare quoi que ce soit, je voudrais savoir à qui j'ai affaire. »
Il lui adressa un sourire cordial. Jack laissa pendre ses avirons en souriant aussi. Le sourire d'Althea paraissait un peu forcé alors que les autres gardaient un air indifférent.
Le vieux se prenait très au sérieux.
« Je suis Mestel Krupp, capitaine de port. C'est le capitaine Kenith lui-même qui m'a nommé, et j'ai le droit de demander à ceux qui arrivent ce qu'ils veulent. »
« Kenith ?»
Brashen s'assit tout droit.
C'est ça, capitaine. C'est ce nom-là qui m'amène ici. Je suis déjà venu, vous savez, à bord de la veille du printemps. C'était une visite brève et je n'en voudrais à personne si l'on ne se souvient pas de moi. Mais ce que j'ai entendu dire du capitaine Kenith m'a ramené ici, moi et mon brave navire et mon équipage. On voudrait faire partie de sa bande, pour ainsi dire. Vous croyez qu'il peut nous voir aujourd'hui ?
Mestel le dévisagea d'un œil cynique. Il se lécha les lèvres, découvrant quelques rares dents jaunes.
« Ça se pourrait, s'il était là. Si vous savez quelque chose sur Kenith, comment ça se fait que vous savez pas qu'il a une vive nef ? Vous voyez pas de vive nef dans notre port, à cette heure, si ?
J'ai entendu dire que Kenith avait beaucoup de navires. En plus, on raconte qu'on se trompe à tous les coups quand on fait des suppositions sur lui. Rusé comme un renard qu'il est, c'est ce qu'on prétend, un œil d'aigle avec ça. » Mais l'endroit n'est pas très confortable pour discuter de tout ça. Partage a changé, et pas qu'un peu depuis la dernière fois que j'y étais. Mais il y a sûrement une taverne où on peut causer tranquillement.
Oui, quand on décide que quelqu'un est bienvenu à partage.
Brashen haussa une épaule.
Ça serait peut-être mieux de décider en buvant une petite goutte. Alors vous me direz si le reste de mon équipage est bienvenu à terre. Ça fait un bout de temps qu'on est en mer. Ils ont le gosier sec et des sous à dépenser pour l'humecter. Partage, qu'ils disent, serait un bon endroit pour partager notre galette. »
Il fit un sourire engageant et tapa sur la bourse replète qu'il portait à la ceinture. Les pièces tintèrent contre les clous et la moitié de cuillère dont il l'avait bourré. Il avait de quoi offrir une ou deux tournées et acheter quelques denrées pour le navire. Sa bordée de terre était suffisamment pourvue pour jeter de la poudre aux yeux. C'est qu'ils étaient des pirates prospères, avec de l'argent à dépenser. Le sourire de Brashen se figeait dans la pluie glacée. Mestel lui adressa enfin un hochement de tête réticent.
« Ouais, on peut causer à la taverne, je crois. Mais vos hommes, votre bordée, y resteront avec nous, et ceux sur le navire y resteront aussi pour l'instant. On n'apprécie pas beaucoup les étrangers par ici, à partage. Surtout ceux qui se ramènent en douce en pleine nuit. »
Voilà qui l'intriguait, pas vrai?
Eh bien, qu'il se concentre sur le problème, le vieux.
« À la taverne, alors !»
acquiesça Brashen cordialement. Il se rassit à l'arrière et débarqua en ville comme un roi, escorté par la maréchaussée de partage. 5 ou 6 badauds s'étaient massés sur le quai, épaules voûtées sous la pluie froide. Mestel avait précédé Brashen sur l'échelle. Le temps qu'il arrive en haut, il était déjà assailli de questions. Brashen attira sur lui l'attention générale quand il s'exclama
« Messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous mener à la taverne ?»
Il adressa à la foule qui se rassemblait peu à peu un sourire radieux. Du coin de l'œil, il surprit l'expression réjouie de Jack, qui appréciait les hommes du regard. Les sourires qu'elle s'attirait en retour ne pouvaient nuire à la cause. Alors que les matelots le rejoignaient sur le quai, les badauds se détendirent. Ce n'étaient pas des envahisseurs, ceux-là, mais d'honnêtes forbans, tout comme eux.
« La taverne, c'est par là !» dit Mestel sur un ton rogue.
Peut-être était-il jaloux de son importance. Brashen le choisit immédiatement pour cible.
« S'il vous plaît, conduisez-nous !»
En suivant Mestel, il constata que leur escorte avait déjà diminué. Cela faisait son affaire. Il voulait recueillir des informations, non captiver toute la ville. Il remarqua qu'Althea s'était placée à sa gauche, à un pas derrière lui. C'était rassurant de savoir qu'il y avait là quelqu'un avec un couteau paré au cas où les gens de partage décideraient de s'en prendre à lui. Chypre et Kert venaient ensuite, suivis de Harg et Kittel, les deux tatoués qu'Althea avait choisis. Jack, qui fermait la marche, avait déjà engagé la conversation avec un beau jeune homme. Brashen surprit un mot ou deux.
Elle lui demandait s'il pourrait se promener en ville et... en ce cas, quel divertissement il recommandait à un matelot solitaire pour sa première nuit à terre.
Brashen réprima un sourire. Eh bien, ne lui avait-il pas préconisé de se montrer amical et de recueillir des renseignements? À l'intérieur de la taverne, il faisait sombre. La chaleur provenait plutôt des corps que du feu qui flambait dans l'âtre. Il flottait des odeurs de laine mouillée, de sueur, de fumée et de cuisine. Althea déboutonna son manteau sans l'enlever. S'il devait ressortir en vitesse, elle ne voulait pas le laisser sur place. Elle regarda autour d'elle avec curiosité. Le bâtiment était tout neuf, mais les murs étaient déjà ternis par la fumée. On avait sablé le plancher pour faciliter le balayage du soir. À une extrémité, une fenêtre donnait sur la mer. Brashen se dirigea vers un coin près de la cheminée. Les tables de bois et les longs bancs étaient occupés par des mangeurs, des buveurs et des causeurs. À l'évidence, la tempête qui s'annonçait incitait les gens à rester à l'intérieur. On les regarda avec une curiosité plus ou moins marquée, mais dépourvue de franche animosité. Brashen pouvait faire son numéro sans faux pas.
Il envoya une bourrade amicale à Mestel alors qu'il s'attablait, et avant que l'autre ait pu dire un mot, il commanda d'une voix forte de l'eau-de-vie pour le capitaine de port et lui-même, et de la bière pour s'aborder. On apporta promptement une bouteille et 2 petits pots en terre cuite.
Alors que le garçon de taverne commençait à charger son plateau de chopes mousseuses, Brashen se tourna vers Mestel.
« Eh bien, il y a eu du changement à partage. De nouveaux bâtiments et un comité d'accueil pour mon navire pour débuter. Je n'ai jamais vu le port aussi désert. Dites-moi, que s'est-il passé ici depuis ma dernière visite ?»
Le vieux parut momentanément déconcerté. Althea se demanda s'il se souvenait même que c'était à lui de poser les questions. Mais Brashen avait bien détecté sa nature loquace. Il ne devait pas avoir souvent l'occasion de pérorer comme un expert.
Brachen se fit le plus attentif, le plus flatteur des auditeurs, tandis que Mestel lui relatait avec force détail l'attaque des trafiquants d'esclaves qui avait changé pour toujours la configuration et la nature même de partage. En écoutant son interminable récit, Althea commença à comprendre que ce Kenith n'était pas un pirate ordinaire. Mestel en parlait avec orgueil et admiration. Les autres ajoutaient leurs propres histoires sur les dires, les faits et gestes de Kenith. L'un des intervenants était manifestement quelqu'un de cultivé. Le tatouage sur sa joue se plissa quand il évoqua avec hargne les jours passés dans la cale d'un transport d'esclaves avant que Kenith ne le libérât. Althea s'aperçut mal à l'aise qu'il le dépeignait en héros d'épopée. Elle en venait malgré elle à l'admirer tout en sentant son sang se figer. Un tel homme, brave et sage et noble, ne renoncerait pas facilement à la vive nef. Et si la moitié de ce qu'on racontait était vrai, peut-être Vivacia lui avait-elle donné son cœur. Alors quoi? Elle se forçait à garder le sourire et à hocher la tête aux histoires de Mestel tout en réfléchissant. Elle avait considéré Vivacia comme un trésor de famille volé ou un enfant enlevé. Et si elle était bien plutôt une jeune fille entêtée qui se serait enfuie avec l'amour de sa vie? Les autres étaient tous en train de rire à une plaisanterie. Althea gloussa consciencieusement. Avait-elle le droit d'enlever Vivacia à Kenith si elle s'était vraiment liée à lui? Où était son devoir? Envers sa famille? Envers sa vive nef? Brachen se pencha pour prendre le flacon d'eau-de-vie. Prétexte pour lui frôler la jambe. Elle sentit la pression ferme et chaude de son genou contre le sien, comprit qu'il devinait son dilemme. Son bref coup d'œil était éloquent. « Tu t'inquiéteras plus tard. Pour l'instant, écoute. On réfléchira après sur les conclusions qu'il faudra tirer. » Elle acheva sa bière et brandit sa chope pour qu'on la remplisse. Elle croisa le regard d'un inconnu en face d'elle. Il l'observait attentivement. Elle espéra que son air pensif de tout à l'heure n'avait pas éveillé chez lui une curiosité intempestive. À l'autre bout de la table, Jack était engagé dans une partie de bras de fer avec l'homme sur lequel elle avait jeté son dévolu tout à l'heure. Althea jugea qu'elle le laissait gagner. Son vis-à-vis suivit la direction de son regard, puis il reporta sur elle des yeux pleins de gaieté. Il était bien de sa personne, les traits un peu gâchés par une trace de tatouage sur la joue. Elle profita d'une pause dans ses explications pour demander à Mestel « Pourquoi le port est-il vide ? Je n'ai vu que trois navires alors que des dizaines pourraient facilement y mouiller. » Les yeux du capitaine de port s'allumèrent et son sourire s'élargit encore. Il se pencha au-dessus de la table pour répondre sur le ton de la confidence.
« Vous êtes nouvelle dans ce commerce alors. Vous savez donc pas que c'est la saison de la moisson dans les îles des pirates ? Tous les navires sont en train de récolter notre gagne-pain pour l'hiver. » Le gros temps est notre allié, car un bâtiment en provenance de Jamelia peut avoir essuyé trois jours de tempête. L'équipage est pompé et négligent quand on sort de chez nous pour l'épingler. C'est l'hiver qui se charge de les harceler pour nous. À cette saison, les vaisseaux sont plus pansus car le produit des récoltes est en transit.
Son sourire s'effaça quand il ajouta
« C'est aussi la pire période pour les captifs sur les transports d'esclaves. » Le temps est mauvais, les mers sont froides, les pauvres bougres sont enchaînés dans les cales humides, les fers sont si glacés qu'ils vous arrachent la peau. À cette saison, les transports d'esclaves sont guère que des cimetières flottants. »
Il sourit à nouveau, la figure éclairée d'une lueur féroce.
« Mais en plus, cette année, et à du divertissement, la passe intérieure grouille de galères chalcédiennes. Ils battent pavillon du gouverneur, mais tout ça c'est de la frime. Ils veulent rafler les plus grosses prises. Ils se croient très malins. Le capitaine Brigg, l'homme de Kenith, il nous a appris l'astuce. On laisse les galères partir en chasse, combattre et se goinfrer. Quand elles sont bien lourdes, le grain est mûr pour la moisson. On sort et d'un coup d'un seul, on écrème tous les navires qu'ils ont pris. »
Il se rassit sur le banc en riant à gorge déployée devant le regard incrédule d'Althea. Puis il empoigna sa chope qu'il fit claquer sur la table pour attirer l'attention du garçon de taverne. «
Quand on lui eut renouvelé sa bière, il demanda
« Comment vous en êtes venu à cette vie ?»«
Par un chemin aussi tortueux que le vôtre, je parie. »
repartit-elle en penchant la tête et en le dévisageant avec curiosité.
« Vous n'avez pas l'accent de Jamélia ?»
La ruse fonctionna. Il se lança dans le récit de sa vie.
En effet, c'était une voie bien contournée qui l'avait amené à partage et à la piraterie. Son histoire tenait de la tragédie et du mélodrame, et il comptait bien.
À son corps défendant, elle commença à l'apprécier.
Il parla de l'attaque qui avait coûté la vie à ses parents et d'une sœur disparue à jamais. Arraché à sa bergerie et emmené de force dans une petite ville côtière loin au nord, il était passé entre les mains de plusieurs maîtres chalcédiens, certains cruels, d'autres simplement insensibles, avant de se retrouver sur un bâtiment en route vers le sud, expédié avec 5 ou 6 autres en guise de cadeau de noces. Kenith avait arraisonné le navire.
Nous y voilà à nouveau. L'histoire remettait en question l'idée qu'elle se faisait non seulement de Kenith, mais aussi de l'esclavage et des esclaves. Les pirates étaient différents de ce qu'elle avait imaginé. Ces coupe-jarrets, ces rapaces sans foi ni loi qu'on lui avait décrits, n'étaient plus soudain que des hommes poussés à bout, qui s'étaient désallés de l'esclavage et avaient repris un peu de ce qu'on leur avait volé. Il lui raconta d'autres choses qui l'étonnèrent grandement. La stupéfaction d'Althea venait en partie de ce qu'il présumait négligemment ces faits connus de tous.
Il parla des pigeons voyageurs qui transmettaient les nouvelles entre les exilés des colonies pirates et leurs familles à Jamélia. Il parla des navires marchands de Jamélia et même de Terrilleville qui faisaient des escales furtives et régulières dans les îles des pirates. Les derniers potins de ces deux villes circulaient à partage. Les nouvelles qu'il relaya parurent invraisemblables à Althea. Une insurrection à Terrilleville avait ravagé la moitié de la ville. En représailles, les marchands avaient pris le gouverneur en otage. Les nouveaux marchands en avaient informé Jamélia. Les fidèles du gouverneur armaient une flotte de guerre afin de châtier proprement la province rebelle. Il y aurait une jolie grappe à grappiller dans les remous de la bataille entre Terrilleville et Jamélia. Les pirates escomptaient déjà des navires jaméliens bourrés des marchandises de Terrilleville et du désert des pluies. La discorde entre les deux cités ne pouvait que profiter aux îles des pirates. Althea était suspendue à ses lèvres, partagée entre l'horreur et la fascination. Y avait-il quelque chose de vrai dans tout cela? Si oui, quelles étaient les conséquences pour sa famille, son foyer? En admettant même que le temps et la distance aient amplifié la rumeur, cela ne présageait rien de bon pour tout ce qui lui était cher. Et le pirate déployait toute son éloquence, flatté et encouragé par l'attention passionnée qu'Althea lui prêtait. Il déclara en jubilant que lorsque Kenith apprendrait ses nouvelles à son retour, il saurait que son heure avait sonné. Il pourrait profiter des dissensions entre ses voisins pour s'emparer du pouvoir. Il leur avait répété maintes fois que le moment venu, il prévoyait de contrôler tout le commerce à partir des îles des pirates. Pour sûr, l'heure était proche. Une brusque rafale de vent secoua la fenêtre de la taverne et fit sursauter Althea. Il y eut une pause dans la conversation.
« On dirait qu'il mérite d'être connu, ce Kenith. »
« Il revient bientôt à partage ?»
Le jeune homme qui l'avait observé haussa les épaules.
« Quand ses cales seront pleines, il rentrera. Il nous apportera aussi des nouvelles de l'île des autres. Il y a emmené son prêtre pour que les autres lui prédisent son destin. Mais Kenith va sûrement prendre des vaisseaux sur le chemin du retour. Il navigue quand et où il veut, mais il ne laisse jamais passer une proie. »
Il pencha la tête. «
Je comprends qu'il vous intéresse. Il n'y a pas une femme à partage qui ne soupire après lui. Il nous relègue tous dans l'ombre. Mais il faut que vous sachiez qu'il a une compagne. Elle s'appelle Etta, et elle a la langue aussi acérée que son poignard. Certains disent que Kenith a trouvé en Etta son âme sœur. Si tous les hommes pouvaient avoir cette chance. »
Il se pencha davantage, les yeux pleins de chaleur, et dit à mi-voix
« Kenith a une compagne, et il est satisfait.
Mais pas moi. »
Brashen s'étira en roulant des épaules et en étendant les bras. Puis, il se balança en avant et posa la main sur l'épaule gauche d'Althea. Il s'inclina légèrement vers l'homme et lui confia doucement
« Dommage, moi aussi. »
Il sourit avant de retourner à sa conversation avec Mestel, mais il laissa son bras sur l'épaule d'Althea. Elle esquissa un sourire désarmant et se dégagea d'une secousse.
« Sois dit sans offense, » souligna l'homme d'un air un peu contraint.
« Y a pas de mal, » assura-t-elle.
Elle rougit légèrement quand, à l'autre bout de la table, Jake croisa son regard et la félicita d'un clin d'œil. « Sacré nom. Brashen avait donc complètement oublié qu'il cherchait à garder le secret ?» Pourtant, elle ne pouvait nier qu'elle ressentait un vif plaisir à sentir sur l'épaule le poids de son bras. Était-ce là qu'il voulait dire quand il parlait de la satisfaction éprouvée à déclarer publiquement leur liaison ?
Dès qu'ils seraient de retour à bord, il faudrait donner le change en prétendant qu'ils avaient joué la comédie pour recueillir des informations. Mais pour l'heure...
Elle se détendit et prouva la chaude robustesse de son corps, de sa hanche. Il bougea légèrement pour qu'elle soit plus à l'aise.
Le pirate finit sa bière. Il reposa sa chope avec un bruit mat.
« Eh bien, Mestel, ces gens-là ne m'ont pas l'air très menaçants. Il est passé midi et j'ai du travail. »
Mestel, en plein milieu d'une histoire interminable, le fit taire d'un geste. L'homme gratifia Althea d'un salut plutôt sec et s'en alla. Plusieurs autres le suivirent. Brashen lui pressa légèrement l'épaule. Bien joué. Ils avaient démontré qu'ils ne constituaient pas une menace pour partage. La pluie continuait à ruisseler sur la fenêtre de la taverne. La grisaille uniforme avait masqué le temps écoulé. Brashen attendit patiemment la fin de l'histoire de Mestel, puis il entreprit de s'étirer exagérément.
« Eh bien, je pourrais vous écouter toute la journée. Un homme qui raconte bien, c'est un vrai plaisir. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va me remplir mes barriques d'eau. Je ferais mieux d'y coller quelques-uns de mes hommes, mais j'ai remarqué que le vieux Keao a disparu. Où prend-on de l'eau maintenant ? Et j'ai promis à l'équipage un peu de viande fraîche, s'il y en a. Soyez gentil pour l'étranger que je suis, indiquez-moi un bon boucher. »
Mais Brashen ne devait pas se débarrasser de Mestel aussi facilement. Le volubile capitaine de port lui indiqua où trouver de l'eau, puis se mit à comparer en détail les mérites relatifs des deux bouchers de partage. Brashen l'interrompit brièvement pour charger Jack de s'occuper des hommes. Ils avaient quartier libre, mais il les prévint qu'ils voulaient les tonneaux remplis avant midi le lendemain.
« Soyez sur le quai à la brune, le lieutenant vient avec moi. »
Quand un gamin arriva en courant pour dire à Mestel que ses porcs s'étaient encore échappés, le vieil homme sortit en trombe, en marmonnant des jurons et des menaces contre ses infortunés cochons. Brashen et Jack échangèrent un regard. Elle se leva, enjamba le banc où elle s'était assise.
« Ça vous ennuierait de me montrer où on peut remplir nos barriques d'eau ? »
demanda-t-elle à son interlocuteur qui accepta de bon cœur. Sans plus de façon, la bordée se dispersa. À l'extérieur de la taverne, la pluie tombait avec obstination, poussée par un vent impitoyable. Les rues étaient fangeuses mais droites. Brashen et Althea marchaient dans un silence complice sur un trottoir en bois. Une rigole en dessous drainait l'eau de pluie jusqu'au port. De rares bâtiments s'enorgueillissaient de vitres aux fenêtres et la plupart avaient les volets clos à cause du déluge. Si la ville n'avait ni le cachet ni la belle apparence de Terrilville, elle avait la même raison d'être. Althea pouvait quasiment flairer l'odeur du commerce. Pour une ville qui avait été ravagée par le feu il n'y avait pas si longtemps, elle s'était bien relevée. Ils passèrent devant une autre taverne en bois brut et entendirent à l'intérieur un ménestrel qui chantait en s'accompagnant à la harpe. Depuis qu'ils avaient accosté, un navire était entré dans le lagon et s'était amarré au môle. Une file d'hommes avec des brouettes déchargeait la cargaison dans un entrepôt. Partage était un port marchand animé et prospère. Partout, on en rendait grâce à Kenith. Les passants qui se hâtaient sur le trottoir pour échapper à la pluie étaient vêtus de façon très diverse. Althea ne reconnaissait pas toutes les langues dont elle surprenait des bribes. Nombre de gens étaient tatoués, pas seulement sur le visage, mais sur les bras, les mains, les mollets. Les tatouages des visages n'étaient pas tous des marques d'esclaves, certains arboraient des dessins de fantaisie. « C'est une manière de s'affirmer », expliqua Brashen à mi-voix. « Beaucoup portent des tatouages qu'ils ne peuvent pas effacer, alors ils les cachent par d'autres. Ils estompent le passé par un avenir plus radieux. »«
Bizarre », marmonna-t-elle.
« Non,
déclara-t-il. Elle se tourna, étonnée par la véhémence de sa voix. Il poursuivit plus doucement. « Je comprends ce désir. Tu ne sais pas combien je me suis battu, Althea, pour que les autres me voient tel que je suis, et non comme le voyou que j'ai été. Si 1000 piqûres d'aiguilles pouvaient effacer mon passé sur ma figure, je les supporterais. » « Partage fait partie de ton passé ?» Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix. Et il promena le regard sur le petit port animé comme s'il s'agissait d'un autre lieu dans un autre temps. Cela faisait partie. Cela fait partie, oui. La dernière fois, j'étais sur la veille du printemps, et nos activités n'étaient pas très nettes. Mais je suis venu aussi il y a des années. Je n'avais que quelques voyages à mon actif quand les pirates ont pris le navire sur lequel je servais. Ils m'ont donné le choix, me joindre à eux ou mourir. Je me suis joint à eux. Il repoussa en arrière ses cheveux mouillés et croisa son regard. Et je ne fais pas d'excuses pour ça.
Pas besoin d'excuses, répondit-elle.
La pluie sur le visage de Brashen, les gouttelettes emperlant ses cheveux, ses yeux sombres et sa proximité la bouleversèrent soudain. Son émotion avait dû transparaître sur sa physionomie car elle vit ses pupilles s'élargir. Indifférente au regard, elle lui prit la main.
« Je ne peux pas expliquer, » dit-elle en riant.
À cet instant, le regarder, elle ne demandait rien d'autre. Il lui serra la main.
« Allons. » Allons faire nos achats et parler aux gens. C'est pour ça qu'on est là.
Je le regrette. Tu sais, j'aime bien cette ville et ses habitants. Alors que ça devrait être le contraire. Si on pouvait simplement rester là, tout seul, comme maintenant. Si ça pouvait être notre vie réelle. J'ai presque l'impression d'être chez moi, ici. Je parie que Terrilleville ressemblait à ça il y a 100 ans. La vie rude, l'énergie, les gens qui s'acceptent tels qu'ils sont... Ça m'attire comme un papillon est attiré par la chandelle. Ça me pardonne, Brashen, mais j'aimerais bien envoyer promener les responsabilités que mon nom m'impose et être simplement un pirate.
Il la regarda en silence, ahuri. Puis il eut un grand sourire.
Fais attention à ce que tu dis. C'était un étrange après-midi. Le rôle qu'elle jouait lui semblait plus naturel que la réalité. Ils achetèrent de l'huile pour les fanaux qui devaient être livrés au quai. Puis Althea choisit des herbes et des potions pour regarnir la pharmacie de bord. Mu par une impulsion, Brashen l'entraîna dans une boutique de tissus et lui offrit une écharpe aux couleurs vives. Elle la noua autour de ses cheveux. Il y ajouta des boucles d'oreilles ornées de jade et de grenats.
« Il faut que tu aies le physique de l'emploi. » lui chuchota-t-il à l'oreille en attachant le fermoir d'un collier. Dans le miroir embué que le marchand lui tendit, elle entrevit une Althea différente, un côté d'elle qu'elle n'avait jamais laissé paraître. Derrière elle, Brashen se pencha pour lui déposer un baiser sur la nuque. Quand il releva la tête, leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir. Le temps bascula. Elle vit le voyou sauvage de Terrilleville, et l'Amazone entêtée qui avait scandalisé sa mère. Un couple idéal. Piraterie et aventure avaient toujours été leur destin. Son cœur se mit à battre plus vite. À cet instant, elle n'eut qu'un seul regret. Que tout cela soit de la comédie. Elle s'appuya contre lui pour admirer le collier scintillant sur sa gorge. Ils se regardèrent dans le miroir, elle tourna la tête et l'embrassa. Partout où ils firent halte, l'un ou l'autre engageait la conversation sur Kenith et sa vive nef. Ils grappillèrent quelques bribes d'informations sur lui, à la fois utiles et insignifiantes. Comme une légende, chacun enjolivait l'histoire à sa guise. Le petit prêtre avait amputé la jambe mutilée de Kenith qui avait supporté l'opération sans proférer un son. Non, il avait ri devant la douleur et, à peine une heure après, il avait couché avec sa compagne. Non, c'était grâce au garçon. Le prophète du roi pirate avait prié, et ça lui-même avait guéri le moignon de Kenith. Il était le bien-aimé de ça, tout le monde savait ça. Quand des scélérats avaient tenté de violer la compagne de Kenith, ici même à Partage,
le dieu l'avait protégé jusqu'à ce que Kenik parût pour massacrer une dizaine d'hommes à lui tout seul, la délivra et l'emmena avec lui. Eta avait vécu dans un bordel, mais elle se réservait à Kenit. C'était une histoire d'amour à tirer des larmes au forban le plus endurci. En fin d'après-midi, ils s'arrêtèrent pour acheter de la soupe de poisson et du pain frais. Là, ils apprirent comment le petit prêtre s'était entremis entre Kenit et la plupart des habitants de Partage, et comment il avait prédit qu'un jour Kenit deviendrait leur roi. Ceux qui avaient douté des paroles du garçon étaient tombés sous son poignard. L'étonnement d'Althea avait dû flatter le marchand de poissons car il répéta l'histoire à trois reprises en l'agrémentant chaque fois de détails. À la fin, il ajouta
« Et le pauvre petit gars, il savait ce que c'était l'esclavage, car son propre père l'avait fait esclave. Oui, il a fait tatouer le dessin de son navire sur la figure du gamin. J'ai entendu dire qu'en libérant la vive nef et le garçon, Kenit a conquis d'un coup leur cœur à tous les deux. »
Althea se trouva muette.
Yémin? Kyle avait fait cela à Yémin, son propre fils, son neveu à elle?
Brashen, qui avait failli s'étouffer avec sa soupe, réussit à demander « Et quel sort Kenit a-t-il réservé à un père si cruel ?»
L'homme haussa les épaules avec indifférence.
« Le sort qu'il méritait, pas de doute. Par-dessus bord, au serpent, avec le reste. C'est ce qu'il fait avec l'équipage des transports d'esclaves qu'il capture. »
Il haussa un sourcil.
« Je croyais que tout le monde savait ça. »
« Mais pas le garçon ?»
demanda doucement Althea.
« Le garçon faisait partie de l'équipage, je vous l'ai dit, il était esclave sur le navire. »«
Ah !»
Elle regarda Brashen. « Ça se tient. » La vive nef qui se retourne contre Kyle et qui accepte Kenit. C'était compréhensible maintenant. Le pirate avait sauvé et protégé Yémin. Bien sûr, le navire serait fidèle à Kenit désormais. Donc, où en était-elle à présent? L'espace d'un instant, une petite voix perfide lui souffla qu'elle était libre. Si Vivacia était heureuse avec Yémin à son bord, si elle était satisfaite de Kenit et de sa vie de piraterie, Althea avait-elle le droit de la sauver? Ne pouvait-elle revenir simplement chez elle, dire à sa mère et à sa sœur qu'elle avait échoué, qu'elle n'avait pas retrouvé leur vive nef? Elle hésita même devant un parti plus insensé encore. Était-elle vraiment obligée de rentrer? Ne pouvait-il pas, Brashen, Parangon et elle, continuer comme ils avaient commencé? Puis, elle songea à Vivacia, s'éveillant sous ses mains alors qu'elle glissait la dernière cheville dans la figure de proue, la cheville que son père avait animée en mourant. C'était à elle, pas à Yémin, certainement pas à Kenit. Vivacia était son navire. Personne d'autre ne pouvait y prétendre. Si les racontars qu'elle avait entendus plus tôt contenaient une once de vérité, si Terrilville était en révolte, alors sa famille avait plus que jamais besoin de la vive nef. Althea la reprendrait. Le navire réapprendrait à l'aimer. Yémin retrouverait les siens. Elle découvrit qu'elle imputait le massacre de l'équipage à Kyle plus qu'à Kenit. C'était par fidélité envers sa famille que ces hommes étaient restés à bord de Vivacia. Kyle avait bafoué les principes moraux d'Ephron, c'est cela qui les avait tués. Elle ne pouvait déplorer sa mort. Il avait été la cause de trop de malheurs. La compassion qu'elle éprouvait n'allait qu'à Kefria. « Il vaut mieux qu'elle pleure la mort de son mari, » pensa Althea amèrement, « plutôt que pleurer toute une vie avec lui. » Le temps était devenu un animal visqueux qui se tordait dans la poigne de Parangon. Mouillait-il dans le port de Partage, où ses ailes déployées l'envoyaient-elles planer sur un courant d'air? Attendait-il le retour du jeune Kenit, en espérant de toutes ses forces qu'il lui reviendrait indemne cette fois-ci? Ou attendait-il le retour d'Althea et de Brashen qui devaient le conduire à sa vengeance? Le mouvement des eaux placides du lagon, le fouettement décroissant de la pluie du soir, les odeurs, les bruits de partage, le silence prudent de l'équipage,
Tout le plongeait dans un état de suspens presque comparable au sommeil. Au tréfonds de sa cale, dans l'obscurité, là où la courbe de la proue ménageait un espace exigu sous le pont, c'était l'endroit du sang. Trop petit pour qu'un homme puisse s'y tenir debout ou même y ramper. Mais un enfant martyr pouvait s'y réfugier et rouler en boule, tandis que son sang dégouttait sur le bois sorcier de Parangon, et là, ils partageaient leur malheur. Là, Kenith pouvait se recroqueviller et voler un bref moment de sommeil, sachant que personne ne tomberait sur lui à son insu. Toutes les fois qu'Ygrot se mettait à l'appeler en braillant, Parangon le réveillait. Prestement, il sortait de sa cachette et se présentait, préférant quitter son sanctuaire et affronter Ygrot plutôt que de risquer d'être découvert dans son refuge par l'équipage. Parfois, Kenith dormait là. Il pressait ses petites mains contre les végrages de bois sorcier, et Parangon veillait sur lui et entrait dans ses rêves. Et dans ses cauchemars. À cette époque, Parangon avait découvert son exceptionnelle faculté. Il pouvait ôter la douleur, les cauchemars et même les mauvais souvenirs. Pas complètement, bien sûr. Oblitérer la mémoire du gamin l'avait rendu idiot. Mais il pouvait absorber la souffrance comme il absorbait le sang qui coulait des blessures. Il pouvait atténuer le supplice, émousser les arêtes vives des souvenirs. Tout cela, il en était capable, pour le garçon. Ce qui exigeait qu'il conserve en lui tout ce dont il soulageait Kenith. L'humiliation cuisante, l'indignité, la douleur lancinante, l'hébétude, la stupeur et la haine ardente, il se les appropriait et les gardait cachés au plus profond de lui. À Kenith, il ne laissait que sa détermination glacée. Un jour, il s'échapperait. Il se détacherait de tout cela. Et ses exploits effaceraient à jamais tout souvenir d'Ygrot dans le monde. Un jour, Kenith l'avait décidé, il rétablirait ce qu'Ygrot avait brisé et détruit. Comme si le vieux pirate malfaisant n'avait jamais existé. On oublierait jusqu'à son nom. Tout ce qu'Ygrot avait souillé serait caché ou étouffé. Y compris la vive nef familiale de Kenith. Il aurait dû en être ainsi. En reconnaissant cet état de fait, Parangon avait remué l'ancienne souffrance. Elle ripait contre lui comme une cargaison mal arrimée qui cogne durant une tempête. La gravité de son échec le terrassa. Il avait trahi sa famille, il avait trahi le dernier membre fidèle de sa lignée. Il avait essayé d'être loyal, il avait essayé de rester mort, mais alors les serpents étaient venus. Ils avaient rôdé autour de lui, ils l'avaient poussé du nez, ils lui avaient parlé sans mots, ils lui avaient embrouillé les idées. Il l'avait effrayé, et dans sa peur il avait oublié ses promesses, oublié son devoir, il avait tout oublié, sauf son besoin d'être réconforté et rassuré par sa famille. Il était rentré chez lui. Lentement, au fil des saisons, il avait dérivé, suivi des courants favorables, et l'épave avait fini par rejoindre son port d'attache, Terrilville. Et tout ce qui lui était advenu là-bas n'était que le juste châtiment de son infidélité. Comment pouvait-il en vouloir à Kenith? Parangon n'avait-il pas été le premier à le trahir? Un profond gémissement lui échappa. Il agrippa comme un bouclier son immobilité et son silence. Un léger piétinement sur son pont, deux mains fines sur sa lisse.
Parangon, que se passe-t-il?
Il ne pouvait pas lui dire. Elle ne comprendrait pas et parler ne ferait que rompre irrémédiablement le serment auquel il avait déjà manqué. Il se cacha la tête dans ses mains tremblantes et sanglota, les épaules secouées.
Voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est lui!
Les voix provenaient d'en bas. Quelqu'un était là, sur l'eau, près de la proue, les yeux levés vers lui, à le dévisager, à se moquer, à railler. Bientôt il se mettrait à le bombarder, de poissons morts, de fruits pourris.
« Vous en bas, écartez-vous du navire !»
avertit Ambre d'une voix sévère.
« Débordez votre canot !»
Ils ne lui prêtèrent pas attention.
« Si c'était le navire d'Ygrot, Où est son étoile ?
Fit une autre voix.
Il a posé son étoile sur tout ce qui lui appartenait.
Le souvenir lointain, affreux de cette étoile qu'on lui avait gravée sur la poitrine, était éclipsé par celui d'un millier de piqûres d'aiguilles qui incrustaient le même emblème sur sa hanche. Il commença à trembler. Chaque bordée de sa carcasse frémit. Les eaux calmes du lagon frissonnèrent contre lui.
« Parangon, du calme, du calme. Ça va aller, ne dis rien. »
Ambre essayait doucement de le calmer, mais ses paroles ne pouvaient effacer l'ancienne brûlure.
« Étoile ou pas, j'ai raison, je le sais, pardi !»
L'homme dans le canot en dessous paraissait très content de lui.
« La figure mutilée est bien révélatrice. En plus, c'est une vive nef. C'est celle dont on parle toujours dans les histoires. Hé, hé, navire, tu étais à Ygrotte, pas vrai ?»
Ce vil mensonge, c'en était trop. On l'avait trop souvent insulté de la sorte. Trop souvent, il avait été forcé d'acquiescer du bout des lèvres, par amour pour le garçon. Jamais plus. Jamais.
« Non !»
rugit-il.
« Pas moi !»
Il battit l'air devant lui, espérant que ses persécuteurs se trouveraient à sa portée.
« Je n'ai jamais été le navire d'Ygrotte. Jamais, jamais, jamais !»
Il hurlait en répétant le mot qui résonnait à ses propres oreilles et noyait tous les mensonges. En dessous, au-dessus et à l'intérieur de lui, il entendait des cris confus, une cavalcade de pieds nus sur le pont, mais il ne s'en souciait plus.
« Jamais, jamais, jamais !»
Il continua à aboyer. S'il ne s'arrêtait pas, on ne lui poserait plus de questions. Et si on ne lui posait plus de questions, il pourrait tenir sa langue. En cela au moins, il resterait fidèle à sa parole et à sa famille. Ils flânaient tranquillement tous les deux le long de la rue. La pluie avait diminué et quelques étoiles commençaient à apparaître dans le bleu profond aux confins du ciel. Les tavernes accrochaient leurs lanternes. La lumière des chandelles brillait à travers les volets clos des petites maisons. Le bras de Brachen entourait les épaules d'Althea. Elle le tenait par la taille. Leur journée s'était bien déroulée. Partage paraissait les avoir acceptés sur parole. Si les informations qu'ils avaient recueillies semblaient déroutantes, elles confirmaient cependant une chose. Kenith devait revenir à Partage. Bientôt. Pour établir le fait, il avait fallu offrir quelques tournées dans la dernière taverne. Il se dirigeait à présent vers la yole. S'éclipserait-il discrètement de Partage demain ou resterait-il, peut-être, jusqu'au retour de Kenith? La décision n'était pas encore arrêtée. Les chances de récupérer Vivacia en acquittant une rançon semblaient bien minces. La ruse paraissait la meilleure tactique. Ils hésitaient sur les nombreux partis à prendre. Il était temps de rentrer à bord pour les examiner tous. Les passants se faisaient plus rares à cette heure. Alors qu'ils cheminaient sur le trottoir de bois, un couple devant eux s'engouffra dans une petite maison et referma la porte. Quelques instants après, la faible lueur d'une chandelle brilla à l'intérieur.
« Si ça pouvait être nous !»
fit Althea d'une voix pleine d'un vague désir. Brachen hésita puis ralentit le pas. Il l'attira à lui et proposa à mi-voix « Je pourrais nous trouver une chambre tranquille quelque part ?» Elle secoua la tête avec regret. « L'équipage nous attend à la yole. On leur a dit d'être là à la brune. Si on tarde, ils vont croire qu'il nous est arrivé quelque chose. » « Qu'ils attendent. » Il baissa la tête et l'embrassa avidement. Dans la nuit froide, sa bouche était d'une chaleur provocante. Elle émit un petit bruit de dépit. « Viens ici, » dit-il d'un ton bourru. Il descendit du trottoir dans l'obscurité profonde de la ruelle et l'attira. Dans l'ombre, il la plaqua contre un mur et l'embrassa plus lentement. Il fit descendre les mains le long de son dos jusqu'à ses hanches. Brusquement, il la souleva sans effort. Le dos pressé contre le mur, elle sentit son désir. « Ici ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Elle avait envie de lui, mais c'était trop risqué. « Peut-être si je portais une jupe, mais ce n'est pas le cas. » Elle le repoussa avec douceur et il la reposa sur le sol, mais la garda clouée au mur. Elle ne lutta pas. Ses lèvres, ses caresses étaient plus enivrantes que l'eau de vie qu'ils avaient partagée. Sa bouche avait le goût de l'alcool et de la volupté.
Il interrompit abruptement le baiser, leva la tête comme un cerf aux abois.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Elle eut l'impression de s'éveiller d'un rêve.
« Qu'est-ce que c'est quoi ?»
Elle se sentait étourdie.
« Ces cris, tu entends ? Ça vient du port. »
Des cris faibles, répétitifs, lui parvinrent aux oreilles. Elle ne saisissait pas les mots, mais elle reconnut la voix avec une certitude glacée.
« Parangon !»
Elle réajusta sa chemise dans sa ceinture.
« Allons-y !»
Côte à côte, ils galopèrent le long du trottoir. Inutile de se montrer discret. Dans une ville comme Partage, les cris n'étaient pas exceptionnels, mais ils allaient finir par attirer l'attention. Parangon répétait toujours le même mot. Ils avaient presque atteint le quai quand Cliff fonça vers eux.
« Faut venir sur le navire, capitaine. Parangon, il est devenu fou !»
Ils haletaient hors d'haleine. Ils se remirent à courir tous les trois. Althea aperçut les hommes de la bordée de terre qui les attendaient avec la peau. Jack avait dégainé son couteau.
« J'ai fait charger ce que vous avez acheté, mais il manque deux hommes » annonça-t-elle.
Il s'agissait des deux affranchis. Althea devina qu'on aurait beau les attendre, rien n'y ferait.
« Démarrez !»
ordonna-t-elle laconiquement.
« Retour au navire, tous ! On quitte Partage cette nuit !»
Il y eut un instant de stupéfaction, et Althea se maudit d'avoir trop bu. Alors Brashen déclara
« Vous n'avez pas entendu l'ordre du second, je dois répéter ?»
Et ils se précipitèrent sur l'échelle et dans les canaux. La voix de Parangon leur parvenait clairement.
« Jamais ! Jamais ! Jamais !»
Ils bramaient plaintivement. Althea distingua la forme de deux embarcations près de la proue. Il avait déjà attiré un auditoire. Le bruit allait se propager comme le feu, que les nouveaux venus étaient arrivés à bord d'une vive nef. Que cette nouvelle évoquerait-elle pour la ville pirate ? Ils eurent l'impression de mettre des heures à atteindre le navire. Alors qu'ils prenaient le pied sur le pont, ils furent accueillis par un Lavoy hargneux.
« Je vous l'avais bien dit que c'était insensé. Ce foutu navire est devenu cinglé et votre fou de charpentier n'a rien fait pour le calmer. Les voyous dans le canot en dessous braillaient qu'il était le navire d'Igrotte. C'est vrai ?»
« Dérapez l'ancre, étarquez les voiles, envoyez !»
répondit Brashen.
« Servez-vous des canots pour virer, on quitte Partage !»«
Ce soir ?»
s'exclama Lavoy indigné.
« Dans le noir, sur un navire cinglé ?»«
Vous savez obéir ?»
fit Brashen en montrant les dents.
« Quand l'ordre est censé !»
rétorqua Lavoy. Brashen tendit le bras, saisit le second à la gorge, il le tira et lui gronda à la figure «
« Comprenez bien ceci. Si vous n'obéissez pas, je vous tue sur le champ. Dernière chance. J'en ai plus qu'assez de votre insolence. »
La scène se figea quelques secondes. La main de Brashen sur la gorge de Lavoy et Lavoy le regardant fixement. Le capitaine avait l'avantage de la taille, mais le second avait les épaules plus larges et la poitrine plus développée. Althea retint son souffle. Alors Lavoy baissa les yeux. Brashen le relâcha.
« Au travail !»
Il se détourna. Comme un serpent qui attaque, Lavoy tira son couteau et le lui plongea dans le dos.
« Voilà pour toi !» rugit-il.
Althea bondit vers Brashen qui chancelait, les paupières serrées sous la douleur. En deux enjambées, le second atteignit la lisse.
« Arrêtez-le, il va nous trahir !»
ordonna-t-elle. Plusieurs hommes se précipitèrent. Elle crut qu'ils allaient l'attraper. Du coin de l'œil, elle vit Lavoy sauter.
« Morbleu ! »
jura-t-elle. Et elle se retourna. À sa grande horreur, elle vit les hommes qui s'étaient élancés vers lui le suivre par-dessus bord. Pas seulement les tatoués de Terrilville, mais d'autres matelots, qui sautaient après Lavoy comme des poissons dans un fleuve au moment du frais. Elle entendit le bruit des éclaboussements des nageurs en bas. Lavoy allait les trahir à Partage. L'équipage loyal restait là à les regarder bouche bée.
« Laissez-les !»
ordonna Brashen d'une voix rauque.
« Il faut qu'on décampe et on sera mieux sans eux. »
Il la lâcha et se redressa. Incrédule, Althea le vit allonger le bras par-dessus son épaule et retirer d'un coup sec le couteau de Lavoy. Il le lança par terre avec un juron.
« C'est grave ?»
demanda Althea.
« Oublie ça pour le moment. Il n'a pas pénétré très profond. Active l'équipage pendant que je m'occupe de Parangon. »
Sans attendre sa réponse, il gagna précipitamment le gaillard d'avant. Althea le suivit des yeux ahuris. Puis elle eut un sursaut et se mit à hurler des ordres pour l'appareillage. Sur le gaillard d'avant, elle entendit la voix de Brashen.
Navire, ferme-la. C'est un ordre.
Chose étonnante, Parangon obéit. Il répondit au timon et au canot qui le déhalaient tandis que les hommes en bas souquaient frénétiquement pour faire virer le navire. Le flux lent du lagon était avec eux ainsi que le vent dominant. Althea volait pour exécuter ses tâches tout en priant pour que Parangon reste dans le chenal et les fasse redescendre sans encombre le fleuve étroit. Comme une fleur qui s'ouvre, la toile s'épanouit dans le vent nocturne. Il fuyait Partage.